Avec Europe 1.
Carrefour. Carrefour Market Teller Drive vous propose des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Jusqu'à dimanche, les clémentines Nour sont au prix imbattable de 1,29€ le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. À retrouver également dans vos nouveaux supermarchés Supéco. Carrefour.
Origine Maroc, catégorie 1, calibre 3, modalité sur carrefour.fr.
Peugeot. Et si c'était le moment de faire une très très bonne opération chez Peugeot Service? Pour ça, il suffit juste de faire une simple opération. Si votre Peugeot a 3 ans ou plus, multipliez son âge par 2 et vous obtenez le pourcentage de votre remise valable en ce moment pour toute intervention en atelier. Par exemple, si votre véhicule a 6 ans, vous bénéficiez de 12% de réduction. Et comme Peugeot Service vous offre en plus un an d'assistance, c'est vraiment le bon moment pour cumuler les bonnes opérations.
Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr, voir conditions en ligne.
Europe 1, 10h01. Le flash, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Et bonjour Philippe, bonjour à tous. Le pass sanitaire entrera en vigueur lundi, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel qui rend son avis aujourd'hui. Et le calendrier d'allègement des restrictions a été dévoilé. Deux dates à retenir, le 2 février d'abord, qui marquera la fin du masque obligatoire en extérieur. Le télétravail ne sera plus imposé et les jauges disparaîtront dans les enceintes sportives et les salles de spectacle où le public est assis. Et puis le 16 février, les discothèques pourront rouvrir, les concerts debout seront à nouveau autorisés. Et la consommation au comptoir sera également possible dans les bars, les cafés, les transports ou encore les cinémas. Et notez qu'un allègement du protocole sanitaire dans les écoles pourra être envisagé au retour des vacances scolaires. Un allègement annoncé alors que les cas de contamination restent à un niveau très élevé avec 425 000 cas de Covid détectés hier. Bruno Le Maire est formel, les aides aux entreprises se poursuivront tant que les restrictions sanitaires seront maintenues. Le ministre de l'économie a notamment cité les boîtes de nuit fermées jusqu'au 16 février. Elles bénéficieront de l'intégralité des aides, les coûts fixes, l'activité partielle et les mesures qui ont été annoncées sur la masse salariale. Alstom va recruter 7500 personnes cette année, 6000 ingénieurs et managers et 1500 ouvriers et techniciens. Le constructeur ferroviaire doit répondre à une demande croissante et à un carnet de commandes record qui atteint 77,8 milliards d'euros au 31 décembre. Claude Guéant sera-t-il présent dans le box? L'ex-ministre de l'Intérieur incarcéré à la prison de la Santé saura aujourd'hui s'il est condamné dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Sont jugés à ses côtés 4 ex-proches de Nicolas Sarkozy, soupçonnés de favoritisme et de détournement de fonds publics. Le responsable du groupuscule d'ultra-droite, Les Zouaves, a été incarcéré. Il n'a pas respecté son contrôle judiciaire en participant à une manifestation samedi dernier contre le pass vaccinal. Le groupe Les Zouaves, soupçonné d'être impliqué dans les violences commises lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, a été dissous le 5 janvier dernier. Deux jours après la mort de l'acteur Gaspard Ulliel, l'enquête se poursuit. Le skieur avec qui il est entré en collision, un Lituanien d'une quarantaine d'années, a été entendu comme témoins. D'autres auditions doivent avoir lieu dans les prochains jours. Dans l'actualité également, les prix des fruits et légumes ont bondi de 9% en deux ans, le constat de l'association Famille Rurale qui a enquêté dans une centaine de magasins et d'hypermarchés. L'association réclame la mise en place d'un chèque fruits et légumes pour ne pas détourner les budgets les plus modestes de ces aliments bons pour la santé. Un mot de tennis avec la qualification de Gaël Monfils pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Le Français a battu Christian Garine en 3-7. Et puis en football, c'est un derby qui va ouvrir ce soir la 22e journée de Ligue 1. Lyon reçoit Saint-Etienne, coup d'envoi à 21h.
Europe 1.
10h03 sur Europe 1, la suite de Culture Média, c'est maintenant.
Merci beaucoup Émilie, on vous retrouve tout à l'heure à 11h sur Europe.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver, si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Bruno Donnet pour ses télescopages. Nos invités sont les sœurs musiciennes surdouées Camille et Julie Berthollet. On va parler de leur nouvel album, il s'appelle Série. Et Lisa Marie Marquez va nous dresser leur portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à nos célébrités avant leur célébrité. Et Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel.
Et Sébastien Bordenave, bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Donnet, je vous salue également.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques. Avant-hier, vous avez donc regardé le 20h de TF1 et vous avez eu l'impression de voir non plus un journal d'information, mais bien un magazine de consommation.
Oui, j'en ai encore la calculette qui fume, Philippe, car figurez-vous que mercredi, le 20h s'est brusquement transformé en un ancien magazine de TF1. Combien ça coûte ? Tout, absolument tout, y était traité sous cet unique angle, je vous raconte. D'abord, Gilles Boulot a enchaîné quatre reportages, et bien dit quatre, consacrés au prix des carburants.
1,62€ le litre de gazole, 1,71€ le litre d'essence sans plomb. En quelques mois, le même plein vous coûte 10€ de plus.
Alors le tout premier sujet, pour son tout premier sujet, TF1 a dépêché l'un de ses plus fins limiers dans une station-service. Le gars a donné la parole à des gens qui étaient en train de faire leur plein d'essence, on n'avait encore jamais vu ça. Et vous allez l'entendre, il n'était pas du tout du genre à exagérer.
C'est un geste du quotidien qui donne aujourd'hui des sueurs froides à de nombreux Français.
Voilà, il manquait plus que la petite musique de Psychose. Tout ça pour finalement découvrir Joël bien emmitouflé sur son scooter qui a fait son calcul au centime près.
Avec 16€, je faisais un plein, là, je suis à 22,18€ quoi. Mais ça change quand même totalement la donne.
Ensuite, TF1 a sollicité un autre de ses champions qui nous a donné des combines pour faire des économies. Enfin, des combines, c'est vite dit, hein, parce qu'après avoir fait naître en nous de très grands espoirs...
Certains prétendent que faire son plein le matin coûte moins cher. Comme il fait plus froid, l'essence s'évaporerait moins.
Un expert est immédiatement venu glacer nos rêves d'économie.
Sincèrement, par des températures comme en ce moment, ça joue pas du tout, hein.
Voilà, bon alors je vous épargne les deux autres entrées carburant, hein, car ce qui est intéressant Philippe, c'est qu'une fois qu'il en a eu fini avec le prix de l'essence, eh bien Gilles Boulot a tout de même conservé son angle, combien ça coûte. Il a balancé un reportage sur les distributeurs de billets automatiques et là, une journaliste nous a bien expliqué, on ne savait pas, qu'il valait mieux éviter de faire des retraits dans une autre banque que la nôtre.
Si vous le faites 4 fois par mois, cela vous coûtera en moyenne non plus 8,60€ par an, mais 12€.
Après ça, un autre reporter du 20h s'est penché sur la commune de Villemur-sur-Tarn, 13 ans après la fermeture de l'usine Molex. Et devinez un peu ce qu'il a découvert.
Un trou dans le budget de la ville de plusieurs centaines de milliers d'euros par an.
Vint ensuite un petit sujet sur les professionnels du tourisme qui souffrent beaucoup des effets du Covid.
Cet hôtelier a fait les comptes. Chaque jour, il perd 35% de son chiffre d'affaires.
Et un reportage sur le salon de l'agriculture qui aura finalement lieu, oui, c'est officiel, pour la plus grande joie de Pierre Alain qui élève des vaches et qui est bien content parce que, je vous le donne en mille...
Un immense soulagement pour cet éleveur, car il a déjà dépensé 2 500€ pour le voyage.
Voilà, alors après tous ces chiffres, Philippe, on arrivait doucettement à la fin du journal et je dois vous dire que j'ai eu un petit espoir, car Gilles Boulot s'est subitement intéressé à ces adolescents qui deviennent végétariens.
Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus manger de viande.
Manque de bol, patatras, en pleine enquête, je suis tombé sur Émilie, la maman d'Emma, qui elle aussi était visiblement très nostalgique de combien ça coûte.
Les deux steaks hachés, façon de parler, hein, végétarien pour Emma, c'est 4€. Les 10 pour nous qui mangeons du bœuf, c'est 7€.
Voilà, alors vous savez, hein, Philippe, combien les choix médiatiques infusent bien souvent les comportements politiques. Alors je ne sais pas vous, mais moi, si j'étais candidat à l'élection présidentielle, je m'empresserais de cesser de causer sécurité ou immigration et je parlerais dardard du pouvoir d'achat et uniquement de ça. Et si j'étais programmateur musical sur Europe 1, je diffuserais Boris Vian toutes les heures. Car non, non, Philippe, il n'y a plus de petites économies, c'est fini.
Merci beaucoup Bruno Donnet. Je me tourne vers vous Laurent Mariotte.
Oui, pouvoir d'achat, sujet de préoccupation numéro un des Français. Effectivement, on le voit autour de l'alimentation aussi. Hein.
C'est exactement ce que disait Bruno,
absolument.
Justement.
Ouais,
il ironise, mais il le pense
mais il
au fond.
Raison, il a raison.
Votre indispensable du jour.
On va parler des sœurs, mais des sœurs en cuisine, puisque vous recevez les sœurs Berthollet qui font des merveilles en musique. Eh bien, des sœurs en cuisine, et c'est une recette qui fonctionne, vous verrez aussi.
Vous allez venir avec les sœurs Papin
Tatin, vous voulez dire.
Oui, vous avez raison.
Papin, c'est la machine à vapeur.
Ah, vous avez raison.
Non, c'était un gars.
C'était des tueuses en série.
Ah,
sœurs Papin.
Ah, ça, c'est au-delà, ça, c'est pas moi.
Exactement. Sébastien Bordonnat, votre indispensable.
Et à la fin, il meurt. Une BD signée Lou Luby qui raconte et analyse les contes de fées. Et c'est vrai que quand on prend un tout petit peu de recul, Philippe. Ouais. Podane, c'est quand même l'histoire d'un père qui voulait forcer sa fille à se marier avec lui. Elle finit par épouser un vrai prince, mais papa est quand même là au mariage. Ouais. C'est glauque.
Et Bruno Donnet me demande combien ça coûte.
Eh ben j'ai regardé et il n'y a pas marqué sur la tête.
Les sœurs Berthollet avec nous, on parle de leur nouvel album série. Mais avant ça, on écoute Étienne Dao sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Camille Berthollet, Julie Berthollet avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes en rythme, vous êtes dans les temps. On sent les vraies musiciennes.
Ah bah, on essaye un peu de se désynchroniser, mais c'est difficile.
Là, vous étiez parfaitement synchrone. Musicienne, virtuose, à la fois violoniste, violoncelliste, pianiste, également chanteuse. On avait découvert Camille dans l'émission Prodige, qu'elle remporte en 2014 à 15 ans. Et depuis, quel chemin parcouru et à quelle vitesse. Vous avez quel âge aujourd'hui?
Oula, ça aujourd'hui, on a 23 et 24 ans, ça et fait très bizarre. J'ai l'impression qu'on a toujours 15.
Après deux disques d'or, vous sortez votre sixième album, c'est chez Warner Classics. Il s'appelle Série. C'est un album qui est né pendant le confinement, ou plutôt l'idée est arrivée pendant le confinement. J'ai su ça, vous me dites c'est vrai ou pas vrai, et vous regardiez une série qui était The Leftover, c'est ça, une série 2014 que je ne connais pas.
Alors, en c'est tout ça, premier, c'est presque ça. C'est un tout petit peu plus précis, c'est que je suis tombée sur la musique de Leftover, je suis tombée sur la BO en me perdant sur YouTube quelques heures par jour parce que je travaillais beaucoup. et je suis tombée dessus, je suis tombée complètement amoureuse de cette musique. Je l'ai envoyée à Camille, j'ai fait mais c'est génial, qu'est-ce que t'en penses? Comme elle a bon goût, elle a le même goût que moi. Elle a trouvé que c'était très bien aussi. Et de là est partie l'idée complète de faire un album autour des séries, tellement on est tombée amoureuse de cette musique incroyable.
Et alors, vous avez les droits ou vous n'avez pas les droits? Comment ça se passe?
Oui, c'est mieux. C'est préférable. On a dû demander tous les droits et l'avantage et le désavantage pour les demandes de droits, c'est que la plupart des compositeurs sont encore vivants. Donc, on a pu leur demander leur avis, mais il fallait bien sûr attendre d'avoir l'aval de tous et c'était très important pour nous. Et on a eu la chance d'avoir l'accord de tous et ensuite, on a dû soumettre tous les arrangements qu'on a fait et que Mathieu Gonnet a fait avant de les publier sur l'album. Mais en même temps, c'est une chance énorme de pouvoir communiquer avec les auteurs.
Ah, donc, j'ignorais totalement. C'est-à-dire que les versions qu'on entend ont été validées.
Oui, tout à fait, toutes. Sans exception.
Game of Thrones, je vais vous dire, c'est le morceau qui ouvre l'album. Et franchement, j'ai pas mon avis à donner, mais je le donne. Moi aussi, je valide. Triolet, si je ne savais pas que c'était dans cet album, que j'ai écouté évidemment, si je l'avais entendu dans la série, j'aurais pas tiqué.
Et bah ça, c'est gentil, un vrai compliment. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être en même temps fidèle et puis qu'on puisse ressentir l'émotion qu'on a devant l'écran et puis essayer de faire quelque chose de nouveau en gardant cette émotion. Donc merci beaucoup.
Fidèle et infidèle, parce que parfois ça ressemble pas du tout à la série. Mission
Bien sûr.
Impossible, ça ressemble pas, ou alors Amicalement Vôtre, ça ressemble pas tellement au générique de la série.
Mais on avait plein d'idées et puis on a créé ça avec Mathieu Gonnet et c'est sûr que à chaque fois qu'on écoute une musique de série, ça nous donne des idées de reprises qui peuvent être très éloignées du style. Et par exemple, on a repris aussi la musique du film La La Land et là on est parti un peu en jazz. Donc il y a des choses très différentes sur cet album. Mais l'orchestre nous permet toujours, l'Orchestre National d'Île-de-France avec qui on a enregistré, de revenir à ce son plein qu'on a, comme par exemple dans Game of Thrones.
C'est iconique, qui est rempli et qui est tellement, on se sent, ça fait un son puissant et qui est tellement agréable de jouer avec un orchestre avec des œuvres pareilles.
Lalo Schifrin, c'est pas lui qui vous a dit oui, c'est les descendants, les héritiers, les ayants droit, c'est quand même Amicalement Vôtre. Et c'est normal que Lalo Schifrin ne vous ait pas dit oui, puisque c'est une musique de John Barry. J'ai confondu John Barry.
Mais il n'y a absolument pas de mal. Mais ouais. C'est assez drôle parce que c'est quelque chose qui arrive très très souvent avec les musiques de films et de séries. On les connaît, on connaît la mélodie.
Mais on ne connaît pas forcément le nom des compositeurs, alors que c'est essentiel. On a voulu un petit peu les mettre en avant aussi avec l'album parce que c'est une part tellement importante dans les films et dans les séries. La musique sans la musique, la série n'est plus rien. Il faut vraiment les deux parties et on voulait vraiment mettre en valeur la musique.
Mais tellement Mission Impossible sans le générique, c'est Mission Possible. Ça fait plus du tout la même chose. Il y a également de la voix qui chante. C'est un quiz, c'est juste pour vous.
Ah, c'est Julie.
Attendez, on écoute et après, c'est un blind test.
On n'a rien dit. Song of a love that is gone. Say, could that last be I?
C'est Julie qui chante et quelle est cette chanson?
Ça, c'est The Sky Boat Song, qui est une chanson traditionnelle.
Tirée de la série Outlander.
Exactement, et qu'on a eu envie de reprendre avec un peu ces percussions traditionnelles irlandaises, et puis empiler nos voix de violon, violoncelle. Donc on a enregistré une voix, puis une autre par-dessus, puis une autre par-dessus. Et finalement, on a presque tout fait nous-mêmes. Et j'ai ajouté à la fin la partie de chant, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et puis qu'on avait abandonné quelques années pendant notre adolescence, parce qu'on n'avait plus trop le temps pour le chant. Ouais. Et on s'y remet avec la composition et les chansons. Ça fait du bien.
Des adolescentes qui n'avaient plus le temps pour le chant, c'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Ça arrive tout de suite, l'enchaînement est tout trouvé. Culture Média continue.
Europe 1.
Vous êtes toujours dans Culture Média sur Europe 1. Dans un instant, Lisa Marie Marquez va dresser le portrait pré-fame de nos invités. Ce sont les sœurs Camille et Julie Berthollet. C'est dans moins d'une minute.
Ce vendredi, avec l'appui de millionnaires Euromillions, 100 joueurs vont gagner 1 million d'euros chacun. FDJ. Participation par l'attribution de code Euromillions parmi les pays participants. Vos règlements. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Jusqu'à mardi chez Auchan, votre pouvoir d'achat est à l'honneur. Profitez d'une remise immédiate de 70% sur le pack de boxeurs homme Umbro. Soit 7,50€ les 3 boxeurs au lieu de 24,99€. À ce prix-là, ça va être coton de trouver plus confortable. Je vous le garantis. Auchan. Avec plaisir. Remise immédiate de 70% sur le pack de 3 boxeurs Umbro, 95% coton et 5% élastane. Taille S à XXL. Valable dans vos hypermarchés et drive Auchan participants.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, comme a dit le monsieur, en compagnie des musiciennes Camille et Julie Berthollet. On parle de leur nouvel album, il s'appelle Série, et de la tournée à venir des concerts. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de nos célébrités avant leur célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Julie, bonjour Camille.
Bonjour.
On vous appelle les sœurs prodiges. Vous partagez le même amour pour la musique et vous jouez aux quatre coins du monde. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre.
Ouh là là. Ouh là.
Julie, vous... ah, bah, on n'a pas eu le petit son. Ça y est.
Ah, ça va mieux. Voilà.
On l'attendait.
Ça fait du bien.
Julie, vous êtes née à l'île Maurice et 19 mois plus tard, Camille, vous naissez à Annecy. Et c'est là que vous grandissez toutes les deux. Enfant, vous avez un point commun. Vous vous intéressez à tout. Très tôt, vos parents vous amènent à des concerts, à des festivals. Votre maman vous fait découvrir la musique classique, le jazz et le lyrique. Et votre père, son truc, c'est la musique française. Brassens, Barbara, Edith Piaf, Francis Cabrel. Julie, à l'âge de 2 ans, vous assistez à un concert de musique classique au château d'Annecy et vous avez un véritable coup de cœur pour le violon. Vous commencez les cours d'éducation musicale, vous découvrez les différents instruments, mais vous n'en démordez pas. C'est le violon qui vous appelle. Camille, c'est à 3 ans que vous réclamez un violoncelle. L'apprentissage commence alors au centre de pratique musicale à Annecy. Puis Camille vient le violon à l'âge de 8 ans, le piano à 9 ans. Vous, Julie, vous êtes déjà passée au piano, à l'alto et au chant. Et vous commencez les concerts toutes les deux. Le tout premier, c'est dans une église luthérienne à Genève pour une œuvre caritative. Vous avez 10 et 11 ans et vous gagnez un repas au resto italien juste à côté.
Ah non, c'est vrai, toujours incroyable.
C'est pas vrai.
Et on avait gagné des spaghettis. Et j'étais trop contente. C'était la fierté parce qu'on avait le repas et la boisson et on était là comme des reines avant de gagner notre repas.
Est-ce que ça fait toujours l'effet Madeleine de Proust quand vous mangez des spaghettis et ça vous rappelle ce premier concert envoûtant?
Si on retourne là-bas, oui. Alors oui.
Complémentaire, jamais rival, sauf lorsque vous jouez aux jeux de société, la bonne paye et aux échecs aussi. Julie, vous jouez pour gagner et vous ne faites aucun cadeau à votre petite sœur.
Ça c'est vrai, on triche toutes les deux, mais c'est atroce. On est mauvaise perdante. Ouais.
Ah oui, toujours. On s'aime beaucoup, mais quand on joue...
Aux échecs, on est sûr de souffrir. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. S'il y en a une qui gagne, c'est que l'autre perd. Donc on est toujours certain de s'engueuler avec un jeu pareil.
Oui, puis contre Julie, c'est difficile.
Lorsque vous n'étudiez pas la musique à la maison, Julie, vous piquez les romans policiers de votre maman, même si ce n'est pas encore de votre âge. Oui. Et vous ne manquez jamais une émission à la télévision.
Celle-ci. Ah oui. Ah, mon enfance. Jamais.
C'est l'émission C'est pas sorcier.
Bien sûr, c'est comme ça que j'ai tout appris de la vie.
C'est pas vrai?
Bah un peu quand même, elle était tellement incroyable cette émission, on a appris tellement de choses en étant enfant.
Mais en général, quand on dit c'est de là que j'ai tout appris de la vie, c'est un autre univers qui s'ouvre.
Mais un peu aussi, oui, je suis assez d'accord.
Camille, vous n'aimez pas du tout les films qui font peur, y compris les Walt Disney, mais un dessin animé...
C'est une catastrophe pour moi.
Mais un dessin animé vous plaît beaucoup, les Barbes à Papa.
Oui. Venir les Barbes à Papa.
Ça fait pas peur les Barbes à Papa,
non.
Évidemment.
Mais Nemo me faisait peur quand même.
Ah oui, Nemo.
Oui, oui, c'est venir.
Ouais, c'était compliqué.
Quand oui. Il se fait manger.
Ah, tout me faisait peur. Je suis sortie de la salle de cinéma, je ne suis pas re-rentrée.
Vous aviez quel âge?
Oh, pourtant, j'étais quand même assez grande. Hein.
Il y a 2 ans.
Ah non, j'étais une grosse trouillarde.
Ouais, mais les barbes à papa, ça me rassurait. Peur, hein.
Non, non.
Les barbes à papa, c'est bien. Et Mary Poppins.
Oui. Ah ben, j'allais en parler. Le film que vous avez vu des centaines de fois, c'est Mary Poppins.
Oui, l'ancienne version.
Oui.
Génial.
La meilleure.
Qui n'a pas regardé Mary Poppins. C'est vrai. Julie Camille, il vous arrive aussi de faire des bêtises, comme lorsque vous avez essayé un jour de convaincre votre voisin d'arrêter d'utiliser des pesticides en fabriquant un produit qui sent très très mauvais et qui mousse pour le verser devant chez lui.
Oui. Alors bon,
et c'était avec l'aide de nos voisins. Hein.
C'était tout le quartier responsable. Oui, oui. On s'est dit qu'on allait faire une potion magique. On est tous allés chercher dans les placards de nos papas et de nos mamans les pires trucs. On a mélangé et on a mis ça devant son jardin parce que lui mettait des pesticides et on voulait sauver la planète. Oui. On s'est dit on va lui montrer ce que ça fait. Et ça a servi à rien du tout parce qu'il a continué de mettre du Roundup dans tout le quartier. Oui. Voilà.
Mais notre mixture, après, il est mort aussi. Donc, notre mixture était intéressante.
Hein. Voilà.
J'aime bien comme il dit ça. Mais après, il est mort aussi. Voilà.
C'est vrai.
Côté scolaire, dès l'école primaire, vous demandez à vos parents de pouvoir suivre l'école à la maison. Cela vous permet de vous organiser au mieux pour les concerts. Après avoir étudié la musique à Annecy, Lyon et Genève, avec de longues heures en voiture avec votre maman qui vous conduit un peu partout et vous fait écouter des livres audio, Camille, Julie, vous partez vous installer à 13 et 15 ans à Vienne pour suivre les cours du russe Zakhar Bron, considéré comme l'un des meilleurs professeurs de violon du monde. Vous êtes d'abord en internat, puis dans un appartement, toutes les deux. Et il a des méthodes parfois étranges. Ce professeur, il peut mettre une chaise en équilibre sur une table, par exemple.
Ah bon ?
Oui, oui.
Et ça fait quoi ?
Ben, on monte sur la chaise et on doit jouer en équilibre sur la table et
sans tomber.
Et en jouant parfaitement les traits très, très, très durs.
Donc on doit
être
très stable.
Et qu'est-ce que ça vous apprend ? Ça vous apprend à vous concentrer sur une difficulté et non sur l'autre ?
Déjà, à ne pas avoir de mouvement intempestif, parce que si on bouge un petit peu trop d'un côté ou de l'autre, bah, on tombe et on est foutu. Donc du coup, c'est sûr qu'on ne bouge pas.
Attendez, mais il y en a qui tombent ?
Ah bah non, du coup, non,
ça marche très très bien,
pas
ça marche
super technique.
Vous passez aussi des concours solidaires jusqu'au bout, lorsqu'une corde du violon de Camille saute en pleine performance.
Ah oui.
Julie, vous venez à sa rescousse pour changer sa corde et lui permettre de terminer le concours, c'est beau.
Oui, j'avais l'art de casser mes cordes en concours, le truc qui n'arrive jamais
à personne, sauf à Camille à chaque fois.
Vous êtes aussi de grands professionnels dès votre plus jeune âge. Pas question de manquer un concert avec 39 de fièvre. Vous assurez quand même l'une comme l'autre. Vous jouez déjà dans le monde entier lorsqu'en 2014, Camille, vous prenez part à la première saison de l'émission Prodige, un concours de talent destiné aux jeunes virtuoses de la danse et de la musique classique. Mais Julie n'est jamais très loin. Vous en parlez dans votre portrait, Camille, diffusé lors de la première émission. Écoutez.
La personne qui me soutient le plus, je pense que c'est ma grande sœur, parce qu'on est tout le temps ensemble et puis
ma voix.
On joue très souvent ensemble et puis on est très complices et quand l'une a besoin de l'autre, on est toujours là pour l'autre. On se chamaille quand même de temps en temps, mais on s'entend très bien, je pense, en général quand même.
C'est énorme.
Camille, vous remportez la première édition de l'émission devant plus de 4 millions de téléspectateurs en faisant virevolter votre archer au son de l'été de Vivaldi. Mais c'est bien à deux, en duo, que la fraîcheur que vous amenez dans la musique classique se ressent le plus. Julie et Camille Berthollet, les sœurs virtuoses, les sœurs prodiges, vous êtes unies par l'amour de la musique. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Wow, trop beau, merci, c'était trop
mignon. Et attendez, vous savez pas tout.
Tellement bon souvenir.
Vous ne savez peut-être pas que Lisa Marie a travaillé sur l'émission Prodige.
Mais c'est vrai. J'ai développé l'émission avec France 2 à l'époque pour je travaillais pour Shine.
Oh, génial.
Donc j'ai travaillé en amont sur cette émission, c'est vrai.
Voilà,
vous lui devez. Mais on s'est déjà croisé.
Non, j'étais pas venue sur le tournage. En revanche, j'avais tout fait du bureau.
Voilà. Génial. Vous lui devez beaucoup, vous lui ferez un chèque à la sortie. Merci Lisa Marie.
J'ai dit merci beaucoup, c'était trop touchant.
Bon week-end. À lundi, je dis à lundi à Lisa Marie et Camille et Julie, vous restez avec nous, Culture Média continue à tout de suite.
9h 11h
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Nous sommes avec Julie et Camille Berthollet, c'est leur 6e album, il s'appelle Série, elle rejoue des thèmes de séries connues ou moins connues, mais pas seulement, on va en parler. Alors, j'ai pas encore tout raconté parce que sur l'album, il y a des grands génériques de grandes séries très connues qui sont des références mondiales, Game of Thrones, The Crown, mais également dans un esprit plus BD, plus comics, un dessin animé. Pourquoi la Panthère Rose ?
c'est tous les souvenirs d'enfance. La Panthère Rose, on l'a joué en audition. C'est un des premiers titres qu'on a joué quand on était petite au violon et au violoncelle. Donc c'est des souvenirs incroyables.
En audition de piano aussi, je me souviens,
oui. On jouait. On était en toute petite avec nos tout petits instruments et on était toutes fières de jouer ça. Et du coup, ça nous ramène à des souvenirs forts et vraiment qui...
C'est notre première pièce qui swing, ouais, d'ailleurs, qu'on a jouée, je crois.
Vous savez à quoi on voit que vous êtes des musiciennes? Parce que normalement, les gens auraient répondu, c'était un souvenir d'enfance. J'adorais cette panthère rose qui se baladait partout. Et non, vous, vous pensez aux notes, à la musique et à ce rythme.
C'est vrai.
Et ces demi-tons, c'est incroyable. Vous regardez toujours la panthère rose ou pas du tout? C'est la musique qui vous plaît?
On écoute toujours la musique.
Ouais.
On l'a regardée plus tard.
Parce qu'il y a Benny Hill là-dedans.
Oui.
C'est la country.
Ouais. Bah là, je sais pas si on a le droit d'être honnête là-dessus.
Bah évidemment. Déjà, quand on commence sa phrase comme ça, on est obligé de la terminer.
Oui, c'est que ça, on a découvert cette musique avec toutes les vidéos, les compilations de fails de gens qui se prennent des murs et
dans
des portes sur YouTube. Ouais. Et c'est comme ça qu'on l'a découverte et qu'on l'a adorée. Et on s'est dit, il faut qu'on la mette sur l'album. Comme ça, après, nous, on pourra faire une vidéo de tous nos fails où nous, on tombe et on fait des conneries. Et on la mettra nous-mêmes sur YouTube.
Mais vous n'avez pas connu Benny Hill à la télé?
Non.
Vous êtes trop jeune. Sébastien Bordonnat, vous avez connu Benny Hill à la télé?
Avant, il y avait Maggie.
Ouais. Voilà, dimanche soir. Sébastien Bordonnat, on va parler de bande dessinée. Camille disait qu'elle déteste tout ce qui fait peur. Vous avez eu peur même à Nemo?
Oui. Peur, je précise.
Sébastien, on n'est pas rendu. Parce que c'est le moment de l'indispensable BD avec vous. Et l'album du jour, c'est publié chez Delcourt. Il s'appelle « Et à la fin, il meurt ».
Oups.
Bonjour Camille, bonjour Julie. La dernière fois que j'ai vu une fratrie aussi agréable, c'était en regardant Temps X. Cette BD, ce n'est pas une histoire qui est racontée, mais des histoires, celles des contes de fées, et elle est signée Lou Luby.
Un jour, mon prince vient...
Oui, vous allez le voir, parfois les contes de fées, c'est la loose. Alors déjà, l'expression conte de fées en elle-même, on la doit à une femme, Marie-Catherine d'Aulnoy, une baronne du XVIIe siècle. Elle sera même la première personne à en publier un en France. Il s'appelait L'île de la félicité. Et elle a écrit aussi un peu plus tard Le prince Marcassin, un conte où elle dénonçait le mariage forcé. Marcassin, plus de 300 ans avant Balance ton porc.
Non, c'est vrai ou c'est vrai,
c'est vrai. Non, c'est
ça,
vrai.
C'est authentique.
Tout est authentique dans la BD.
Ouais, et vous, on se méfie toujours. Hein.
Mais parlons plutôt des conteurs stars, on les connaît. Charles Perrault, XVIIe siècle, les frères Grimm, XIXe siècle. Les deux retranscrivaient avec talent des contes qui existaient déjà et qui étaient transmis oralement. Ainsi, dans la BD, on apprend l'existence d'un conte chinois écrit vers 850. L'histoire, c'est une fille maltraitée par sa belle famille qui perd un soulier d'or pendant une fête. Ça nous fait furieusement penser à Cendrillon. Bah oui. Ça veut dire que toutes les versions suivantes sont un peu des plagiats, donc qu'on arrête d'embêter Gad Elmaleh. Avant Charles Perrault et les frères Grimm, il y avait Giambattista Basile, un poète napolitain né au milieu du XVIe siècle. Lui aussi faisait des contes, mais il visait plutôt les adultes. Par exemple, certaines personnes soulignent aujourd'hui avec raison que dans l'histoire de la Belle au bois dormant, elle n'a pas donné son consentement pour le baiser puisqu'elle dort.
Et oui.
Et bah dans la version première de Giambattista Basile, je vous lis ce que se dit le prince quand il est devant Cendrillon endormi. Appâté par les apathiques appâts de la belle, il la porta jusqu'à un lit où il butina cette fleur d'amour. Vous l'avez compris, la princesse, elle passe à la casserole. La suite, 9 mois plus tard, elle accouche de jumeaux. Elle est toujours endormie et quand un de ses bébés tête ses doigts, une écharde part. Du coup, ça la réveille. Elle découvre ses deux enfants et le prince, qui est plutôt à son goût, mais qui ne peut pas la ramener tout de suite à son château parce qu'il est déjà marié.
Ah ouais.
Bref, c'est un vrai prince charmant. Alors, il y a vraiment mille et une découvertes incroyables dans la BD et à la fin, il meurt. D'ailleurs, je vous l'offre, Camille et Julie. J'ai qu'un exemplaire, donc vous ferez une garde partagée.
Ah, trop bien, merci.
Est magnifique.
Pour finir, sachez qu'à titre personnel, j'adore la loose. J'aime les bides. Et ça tombe bien parce que est raconté dans la BD un authentique conte de fées des frères Grimm, mais qui a fait un flop total. Je vous le fais en 10 secondes. Ça s'appelle Le souriceau, l'oiseau et la saucisse. Ils vivaient tous les trois ensemble. L'oiseau était chargé de trouver du bois. La souris, elle, s'occupait du feu. La saucisse nageait dans l'eau chaude. Un jour, un pigeon qui passait par là dit à l'oiseau « Mais la saucisse, ça fait rien, c'est pas juste. » Du coup, il change la répartition des tâches. Résultat, la souris s'ébouillante, l'oiseau se noie avec le seau et la saucisse se fait bouffer par un chien. Voilà. Fin de l'histoire. C'est un vrai conte des frères Grimm. On comprend pourquoi Disney l'a pas adapté. Encore que, ça va peut-être sympa.
Merci Sébastien pour nous. C'est exceptionnel, non?
Ah, c'est incroyable. On a envie de faire un dessin animé là-dessus. C'est fantastique. Vous avez des jours avec et des jours sans les frères Grimm. Hein.
Exactement.
Et vous, il n'y a que des jours avec gastronomie. On ne va pas parler seulement de spaghettis après un concert. On va parler de sœurs qui font la cuisine. C'est Laurent Mariotte qui arrive. Culture Média continue.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Pourquoi cette visite, cette revisite du thème de La La Land? Parce que c'est un des titres qu'on peut trouver dans cet album série signé Camille et Julie Berthollet, qui sont nos invités ici dans Culture Média. Votre rituel avant les concerts, c'est quoi? C'est toujours la pizza?
Alors ça a été longtemps, oui. La pizza, pendant une année et demie, on demandait que des pizzas avant de jouer parce qu'on savait qu'on pouvait trouver ça partout et il n'y avait pas de déception, ou alors moyenne. Donc on a mangé beaucoup et maintenant on s'est un peu calmé.
Parce que la déception, c'était sur la balance?
Oh non, alors ça franchement, je m'en fous, mais d'une force.
C'est pas vrai.
Ah ouais. Ah bah ouais, il faut manger, il faut se faire plaisir dans la vie, on en a qu'une.
Ah, ça fait plaisir ce que vous venez de dire à Laurent Mariotte. Ben rebonjour, cher Laurent. Ce matin, vous allez nous parler de sœurs qui s'épanouissent en cuisine, ou face à des sœurs qui s'épanouissent en musique. Travailler entre sœurs, vous dites, c'est une recette qui fonctionne.
Exactement, en cuisine, dans la restauration en général, il y a plein de belles histoires de sœurs. Alors, dans la famille des sœurs célèbres en cuisine, vous me voyez venir?
Oui, vous mettez votre bonnette.
Je fais ça bien pour qu'on m'entende bien.
Les sœurs Tatin?
Les sœurs Tatin, effectivement. Stéphanie et Caroline. Alors, pas de Monaco.
C'est pas vrai.
Mais de la Motte-Beuvron.
Elles s'appelaient Stéphanie et Caroline.
Oui, exactement. Ouais, Stéphanie et Caroline de la Motte-Beuvron. Il y a toujours l'hôtel-restaurant qui existe, hein, près de la gare en Sologne, à la Motte-Beuvron. Alors, l'histoire raconte que la recette de la fameuse tarte tatin avec des pommes.
Elle s'est trompée, elle l'a fait à l'envers.
Ouais, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. On raconte que c'est pendant un repas de chasseurs qu'elles ont fourné dans un moule les pommes sans mettre la pâte. Et hop, là, après que les pommes soient cuites, elles se sont dit mince, il n'y a pas la pâte. Elles ont mis la pâte par-dessus, elles ont redonné un petit coup au four. En fait, la vérité, moi, j'ai enquêté sur le sujet. Et apparemment, elles auraient pompé en fait une auberge d'à côté qui faisait déjà cette recette depuis longtemps en fait. Elles se sont un peu appropriées cette recette, les sœurs Tatin. C'est une vraie légende en fait.
Plagiat.
Alors ça c'est pour la légende. Vous avez une autre histoire de sœurs en cuisine, cette fois-ci totalement véridique.
Ah oui, véridique, actuelle et contemporaine. L'histoire des trois sœurs Métayer, je ne sais pas si vous les connaissez, Pandora, Paloma et Nina, toutes trois tombées dans la marmite quand elles étaient petites. Alors les deux premières sont derrière les fourneaux à Paris et à Londres des cuisines de William Ledeuil. Il y en a une qui est chez Kitchen Terre, il y a Paloma qui est chez Kitchen Terre, qui est un restaurant du boulevard Saint-Germain à Paris. La dernière, Nina Métayer, elle est en pince pour le sucré, élue meilleure pâtissière de l'année 2017 par Le Goumillo. Elle est passée par le Palace Le Raphaël à Paris quand Amandine Chéniaud était aux cuisines. Le grand restaurant de Jean-François Piège, le café Pouchkine aussi, et elle vient de monter sa propre pâtisserie en ligne, c'est pour ça que j'en parle, parce que tout le monde peut goûter ces délices. Ça s'appelle la délicatesserie et je vous présente un de ces desserts emblématiques qui va arriver d'un instant à l'autre pour vous, pour que vous puissiez le goûter. C'est une tarte au citron de Nina Métayer, que voilà, regardez comme elle est belle, et vous allez pouvoir la goûter. Exactement, la délicatesserie, c'est sur internet.
Merci.
Alors, vous allez goûter, allez-y, je vous laisse prendre le temps de goûter. On est loin d'une crème.
Il faut que vous parliez pendant que
je parle.
J'ai jamais vu un truc aussi incroyable en radio, c'est fou.
Elle est belle, hein. Il faut goûter hein, pour se rendre compte.
Ça
on
sent
est loin.
Bon, hein.
Ah ouais, ça sent. Vous avez raison, il faut sentir d'abord. On mange avec les yeux, ensuite avec le nez. Et c'est vrai qu'on est loin d'une crème de citron très acide et un peu gélatineuse. Hein. Faut bien le dire que c'est l'écueil des tartes au citron. Il y a trois citrons d'ailleurs dans cette tarte pour la garniture. Il y a du citron Meyer qui est le classique. Il y a du citron yuzu.
Voilà.
Et la bergamote aussi. Donc vous voyez, il y a une nuance, il y a une variété, il y a une palette aromatique comme ça des agrumes. Et il y a une autre couche, je ne sais pas si vous remarquez, qui donne de la mâche à cette tarte. C'est une crème d'amande pour adoucir l'acidité et rehausser le parfum du citron. Donc ça, c'est Nina Métayer.
Wow. Et je viens de tomber sur le yuzu, c'est une tuerie.
Ah, c'est bon ça, voilà.
C'est vraiment un délice. Mais alors, elles ne travaillent pas ensemble. Elles sont sœurs, mais elles ne travaillent pas ensemble. Elles sont chacune à un endroit différent.
Oui, absolument. Il y en a deux dans des restaurants à Paris et Nina est à la délicatesserie. Nina, elle est pâtissière. Les deux autres sont cuisinières.
Mais il y en a des sœurs qui travaillent dans le même, comme les couples, genre une en cuisine, l'autre en salle.
Exactement.
Une
ça
à la
peut,
caisse.
Ça peut, c'est ça, exactement, mais ça arrive. Ça peut aussi être une sœur à la direction de l'établissement et une autre en cuisine. Et là, je pense à Bérangère et Blanche Loiseau, les deux filles de l'illustre Bernard Loiseau à Saulieu, en Côte d'Or. Elles ont toutes les deux passé un CAP de cuisine pour savoir de quoi elles parlaient. Bérangère, elle préfère tenir la maison et collaborer avec les chefs et les équipes. Blanche, elle a 26 ans. Elle préfère l'action des cuisines aux côtés du chef Patrick Bertrand, qui était déjà aux côtés de son papa à la grande époque. Et elle vient de redécouvrir, elle me disait, une spécialité de son père, le bœuf bourguignon, avec cette façon de mixer la carotte et l'oignon pour faire une sauce qui va être bien à pente, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, Bernard Loiseau a réinventé nos sauces, il les a allégées en mixant les légumes par exemple avec des bouillons et des choses comme ça. Donc faites un bœuf bourguignon à la façon de Blanche Loiseau ce week-end, ça vaut le coup.
En plus Camille voulait en faire un.
C'est pas vrai.
Le bourguignon à la Bernard Loiseau.
Je vais faire ça, là j'ai faim.
Et chose promise, chose due, la recette de la tatin pour les sœurs, les frères et les enfants uniques du week-end.
Oui absolument, une recette toute simple que vous pourrez refaire. Vous allez acheter de la pâte brisée pour la tatin, des pommes, c'est bien de prendre la variété Tell Star qu'on trouve un petit peu partout. Sinon, c'est la Golden. Moi, je ne suis pas un dingue de la Golden, mais pour la Tatin, elle est bien parce qu'elle tient bien la cuisson. Ah. La Golden du Limousin, par exemple, vous allez peler vos pommes, vous les coupez en quartier, vous retirez le trognon, vous allez les mettre dans un moule, comme un moule à manquer, qui va aller directement sur le gaz ou sur la plaque à induction, du beurre, du sucre, vous faites un caramel, vous mettez vos pommes face bombée dans le dessous, vous en mettez une autre couche par-dessus, face bombée en l'air, pour que ce soit joli, on reconstitue la pomme, comme ça, et on fait caraméliser une vingtaine de minutes, on laisse refroidir, on met la pâte brisée par-dessus, et là, ça part au four, 35 minutes à 200 degrés, on laisse légèrement refroidir, et alors là, on y va généreux, avec une belle cuillère de crème fraîche à l'ancienne, mais de la crème crue, hein, pas, de la, pas de la léger. Hein.
Ça part au four à l'endroit ou à l'envers ?
Ça part au four avec la pâte brisée par-dessus, donc dans le moule. Oui, oui.
Et après, on la retourne après, et on la sert comme
vous
ça.
Vous avez raison, absolument.
Voilà, après, il me semblait qu'il manquait une étape.
Il manquait une étape, il faut la retourner. Oui, on ne la mange pas dans le moule. Ça pour ça. On la laisse refroidir, on la retourne. Oui.
Demain, à la table des bons vivants, Laurent.
Bah, pareil, un plat rassembleur de saison conviviale. On va faire un bel atelier fondu de la savoyarde à la fondue française, on va tout vous dire.
Et puis, la
Suisse aussi, absolument, avec des fromages suisses. Et on va passer aussi à la casserole les propositions en matière d'alimentation des candidats à la présidentielle du bien-être animal aux cantines scolaires en passant par les circuits courts et on aura Pascal Obispo à notre table.
Fabien Roussel aussi qui a beaucoup parlé. Absolument. Le candidat communiste qui a beaucoup parlé,
on va revenir,
polémique, et du coup il a gagné des points
politique mis à part, il a tellement raison que voilà, l'accès à la bonne nourriture doit être un vrai programme, ça c'est sûr.
Ça, c'est vrai.
Merci beaucoup Laurent Mariotte, ne fondez pas, revenez la semaine prochaine, Culture Média continue. C'est la dernière ligne droite, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est la dernière ligne droite de Culture Média, les 10 derniers pourcents. On en entend justement 10% revisités par vous, Camille et Julie Berthollet. C'est dans cet album série. Ça s'appelle série. Il n'y a pas que des séries. Il y a aussi une musique de film.
Oui, mais comme c'était notre album, on se dit, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Donc on peut l'appeler série, puis mettre aussi un peu de musique de film et de composition. Pourquoi pas finalement voilà, on est vraiment très. On fait des trucs très controversés.
Alors pour se rattraper, vous l'avez mis à la fin. C'est signé Georges Delerue et c'est le concerto de l'adieu. Exception magnifique, on ne peut pas comparer avec l'original puisque ça vient du film, je l'ai appris en lisant les notes de pochette, Dien Bien Phu, que je n'ai pas vu, donc je ne me rends pas compte. Et je vais dire un mot de qui est Georges Delerue, c'est le type qui a fait peut-être la plus belle musique du cinéma français, qui est la musique du mépris, et vous n'avez pas osé mettre le thème de Camille.
Non, on aurait pu. Oui. On manquait un peu de place aussi
sur
l'album.
Vous vous êtes posé la question ou pas du tout ?
On a pensé à beaucoup d'autres titres, en effet, mais on a mis 23 titres et puis on ne pouvait plus. On avait mis le maximum, donc peut-être on fera en volume 2.
En volume 2, oui, tout à fait.
S'il faut, mais là, du coup, on a mis vraiment nos préférés. Et puis Delerue, on voulait vraiment lui rendre en hommage.
Et le mettre en entier aussi, parce que ça dure 10 minutes, ce concerto de l'adieu. Et on voulait terminer l'album sur une pièce complète et puis un bel hommage.
C'est vous deux qu'on voit sur la pochette de l'album.
Tout à fait. Oui, en train de manger du pop-corn. Je l'avais dessiné pendant le confinement. J'avais
fait
un petit croquis.
Il y a un petit violoncelle derrière. On voit que manger beaucoup de pop-corn. La table basse n'est pas rangée.
Et ça, c'est vrai. Ouais. Tout est réaliste.
C'est fidèle à notre vie.
Ouais. Contrairement à beaucoup de gens pendant le confinement, il n'y a pas d'alcool sur la table.
Non, j'aime pas du tout.
Il n'y a pas un vieux cendrier qui traîne.
On ne fume pas.
Non.
Non plus, avec rien dedans, rien. Il y aura des concerts ?
Ah oui, ça reprend et ça c'est le truc qui nous fait le plus plaisir là, à la fin du mois on va jouer en Suisse.
Il y a Enghien-les-Bains, il y a le grand concert au Grand Rex le 9 novembre 2022 et ça va être génial parce qu'on va vraiment pouvoir avoir le nouveau projet.
Et c'est quoi le nouveau projet ?
Le nouveau projet c'est Série, c'est cet album et ce sera la première fois qu'on aura le concert à Paris.
Et est-ce qu'il y aura un écran géant avec les séries en même temps comme ça se fait parfois ?
Alors ça, c'est une super bonne idée. Et justement, on est en train de faire de créer
Merci.
Toutes les idées du spectacle.
Je l'ai trouvé hier soir en préparant l'entretien.
Donc si on le fait, on vous créditera à la fin du concert.
Bah, si oui. vous l'avez eu également, mais ce serait formidable de voir oui. la Panthérose pendant la Panthérose, Amicalement Vaude pendant Amicalement Vaude. Enfin, je ne vais pas tous les faire. Mais là, vous allez avoir un énorme problème de droit.
Surtout si, ensuite, très oui.
si ensuite vous voulez faire le DVD du spectacle, je peux vous dire, vos oui, avocats peuvent vous déjà oui, commencer à travailler.
À pleurer, ouais.
Non, mais on a des belles idées quand même pour la date, vu que c'est une date spéciale et le Grand Rex, on s'est dit, ça va être la salle parfaite pour
la musique pour à l'image, c'est nickel.
Tout à fait.
Vous démarrez toujours avec du Vivaldi en concert ?
Actuellement, oui.
Et vous terminez toujours avec AC/DC ?
Presque, c'est un des derniers
c'est
titres.
Ouais. Ça fait marrer Marc-Antoine Lebré que je salue Sébastien. Vous saviez pas qu'elle terminait avec du AC/DC. Alors que l'inverse, AC/DC termine jamais avec du Camille et Julie Berthelet.
Hein. Mais je sais pas pourquoi, c'est bizarre.
Oui. Alors, c'est étrange,
ça paraît logique.
Fin, ça y est, well. Vous avez joué récemment à Londres, c'était le Royal Albert Hall. Oui. Ça fait comment de jouer là-bas?
C'était incroyable. En plus, ça faisait des années qu'on avait des dates de prévues là-bas et à chaque fois, il y avait un autre concert en même temps. Et puis après, il y a eu la pandémie et on s'est dit, bon, bah, ça sera dans plusieurs années, ça ne pourra jamais être reporté bientôt. Et on a eu la chance, il y a quelques mois, d'aller y jouer et c'était un rêve depuis toute petite.
On était super impressionnés quand on est entrés dans la salle, on était comme des petites filles. Déjà, le plafond, il est magnifique, l'acoustique, on fait une note, on fait « waouh, je joue bien enfin, !» C'est vraiment génial, c'est magnifique.
Autre actu, il y en a des actus avec vous deux. Vous êtes sur deux albums. On en a parlé il y a quelques jours. Vous êtes sur l'album en hommage à Jean-Jacques Goldman qui s'appelle L'Héritage Goldman. Ça sort aujourd'hui, et hasard de l'actualité. Et vous faites ce qu'on ne fait jamais, un prélude.
Oui, instrumental, au tout début de l'album.
Éric Benzi nous a proposé de faire le prologue, prélude de Il suffira d'un signe pour débuter l'album avec une partie totalement instrumentale. Et puis on a fait une petite surprise aussi sur Je te donne avec nos violons. Et c'était un vrai plaisir de reprendre du Goldman parce qu'on a toujours énormément apprécié reprendre ses chansons.
Et vous êtes aussi sur l'album de Grand Corps Malade. Il part en tournée dans toute la France. C'est un album de duo. Vous allez parfois faire des concerts avec lui ?
Oui, on espère. C'est un projet et on se réjouit. Julie a déjà pu voir le concert. J'ai pas encore eu l'occasion et apparemment c'est magnifique. Donc je me réjouis de le voir aussi. Et puis bien sûr, aller jouer sur scène ce qu'on a fait en album, c'est toujours incroyable.
10h55, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebré. Comme tous les jours, il y a des personnalités qui viennent pour nos invités. Ce matin, c'est l'historien Franck Ferrand qui s'est intéressé oui. à la biographie des sœurs Berthollet.
Bonjour à toutes Bonjour. Et à tous. C'est le 4 janvier de l'an de grâce 1999 que naquit Camille Berthollet. Au passage, bon anniversaire avec quelques jours de retard, Camille.
Oh, merci.
Mais ce n'est pas grave, on est sur Europe 1, on a le droit au retard puisque Patrick Fiori est dans la playlist de la radio.
Oh.
Pour ce qui est de sa sœur, Julie Berthollet, je ne sais pas quand elle naquit car elle n'a pas de fiche Wikipédia. Voilà. Julie et Camille ont 2 et 3 ans quand elles tombent amoureuses du violoncelle. Alors que toi, tes gamins à cet âge-là, ils ne sont bons qu'à bouffer de la pâte à sel. Mais c'est comme ça, dans la vie, il faut bien des génies et des Philippe Vandel.
Je crois qu'Arnaud Montebourg vient d'arriver dans le studio.
Salut, salut, salut tout le monde, vous allez bien?
C'est tellement ça.
Bon, moi, ça va pas tip-top. Je viens encore de me prendre une veste et j'ai dû abandonner la présidentielle, mais j'ai une idée de génie, les sœurs Berthollet.
Ah.
J'ai pris une raclée en 2017 et une branlée en 2022. Vous qui faites un album sur les séries, ça devrait bien vous inspirer un morceau sur ma série de défaites, non? Salut, salut!
Salut Arnaud, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy voulait vous dire quelques mots.
Bonjour Monsieur Vandel, bonjour Madame Berthollet. Vous savez Julie et Camille, je me permets de vous appeler par vos prénoms parce que vous et moi on a un peu la même histoire. Dans ma famille aussi on est beaucoup à s'être mis au violon. Claude Guéant au violon, Patrick Balkany au violon, puis moi avec tous mes jugements en cours, je vais certainement mettre au violon aussi.
Et puis un acteur en colère, un coup de gueule à partager avec vous. Bonjour François Cluzet.
Non mais merde là, les filles, hein. J'ai écouté votre album série, vous reprenez que des trucs anglo-saxons là, hein. Game of Thrones, The Crown, Joséphine Ange Gardien, ça vous emmerde, hein. Et plus de la gueule, Mimi Mati. D'abord pour le savoir, faut se mettre à genoux. Elle rigole, merde! Et le générique de Camping Paradis, moi, il me donne envie de bivouaquer en quechua. Hein. Je vous adore les filles, mais un peu de France, quoi, merde!
Il y en a un petit peu, il y a 10% qu'on a passé. Et puis, ouais,
vous
étouffez
pas, vous. Hein.
On a fait Fly en plus, d'Intouchable.
Oui,
exactement.
Absolument.
Magnifique.
Ouais, mais
musique,
c'était des vannes, hein, vous inquiétez pas. Hein.
Une star de la musique a tenu à être là pour vous, c'est David Guetta.
Wow. Salut Europa! Tout le monde les mains en l'air, comme moi quand je mixe. Salut Camille! Salut Julie!
Salut,
je
salut.
Savais pas que vous bossiez avec un DJ. Ouais, le gars qui agite ses bras toujours en l'air face à l'orchestre. Ouais, je me suis renseigné. Apparemment, le David Guetta du classique, c'est DJ Karajan. Ouais, je vous laisse. J'ai un récital à Ibiza avec DJ Blanquer.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Merci, Camille. Merci, Julie. Série Camille, Julie Berthollet. Ça vient de sortir. C'est chez Warner Classic. Et puis des concerts qui vont arriver. Merci à tous d'avoir été là. Merci, Sébastien. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. J'adore cette musique. Nous serons avec le créateur et réalisateur de la série Narvalo sur Canal+, c'est Mathieu Longat. C'est la saison 2 de Narvalo qui démarre. Et puis après, je vous donne juste un nom. Nous serons avec Isabelle Huppert. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfaits pour vous, le programme du jour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on va parler des bienfaits de nos animaux de compagnie. Je ne sais pas si vous avez un chat ou un chien ou même un cochon d'Inde. En tout cas, apparemment, les gens qui ont un animal chez eux sont en meilleure santé. On va décrypter tout ça avec notre spécialiste.
Très bien. Et puis dans le dossier santé, on va parler d'une maladie au nom un peu barbare, la BPCO. Je vous la fais courte, c'est la bronchite chronique en gros causée par le tabac essentiellement. Et bien, on va apprendre à la dépister, à la traiter. Et vous verrez, c'est très important de dépister tout ça et de la prendre en charge très tôt, ce qui n'est pas encore le cas forcément en France. On en parlera.
On vous écoute et je salue Paulus, grâce à qui je suis en très bonne santé. Merci, à lundi. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1. Europe 1.